Bonjour à tous. Encore une fois, je voudrais prier et remettre ce temps. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta présence tous les jours avec nous et nous voulons prendre ce temps pour t'écouter, pour te demander de parler et que nos cœurs soient ouverts à toi. Aide-nous à bien comprendre ce que tu veux dire. Puisses-tu vraiment parler au travers de ma bouche, que ce qui n'est pas de toi puisse rentrer dans une oreille et sortir dans l'autre, mais que ce qui vient de toi puisse vraiment rentrer dans chacun de nos cœurs et s'appliquer dans nos vies. Amen. Donc, je vais commencer par lire le passage. Donc, Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 4. Gardez-vous d'accomplir devant les hommes, pour vous faire remarquer par eux, ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense pour votre Père céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les gens chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ton aumône se fasse ainsi en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Alors, à l'ère des réseaux sociaux, l'ère des réseaux sociaux semble être aussi l'ère de l'étalage de la vertu. Alors, il y a l'écologisme, la justice sociale, l'antidiscrimination, et encore plein d'autres sujets et qui sont mis en avant comme étant des sujets que nous devrions publiquement et activement participer, du moins verbalement et financièrement. Alors je ne me prononcerai pas aujourd'hui sur aucun de ces sujets. Dans le texte d'aujourd'hui, Jésus nous met au défi lui aussi, mais c'est un défi bien différent que de supporter telle ou telle action ou de participer dans une certaine œuvre de charité. Il nous met au défi d'agir avec la bonne attitude. Alors, mon premier point sur ce texte, c'est un accent sur la réputation. Alors, un des points qui transparaît dans ce texte, c'est la recherche d'une bonne réputation. C'est un désir engrainé au plus profond de qui nous sommes en tant qu'êtres sociaux. Nous voulons avoir une bonne réputation dans notre communauté et auprès de ceux qui nous entourent. Et au départ, c'est avec une bonne raison. En effet, la réputation est le moyen que l'être humain a développé pour mettre en valeur les comportements et les actions qui sont bénéfiques à la communauté et décourager les comportements négatifs. Il est effectivement agréable de savoir que notre comportement est apprécié, que les efforts que nous appliquons ont un effet autour de nous. Dieu nous a créés d'une telle manière que la relation avec les autres est importante. Et si tout le monde autour de nous critique notre attitude, il est normal de s'interroger sur notre trajectoire. Malheureusement, le péché touche chaque partie de notre être, et nous avons la capacité de transformer toute chose, même bonne, en idole qui va prendre la place de l'objectif. Et dans le cas de la réputation, le piège, c'est de mettre la réputation comme un objectif en soi, plutôt qu'un indicateur plus ou moins précis sur la qualité du comportement d'un individu. Alors qu'en fait, l'objectif original, c'est pas la réputation, c'est le comportement lui-même. Que nous marchions d'une manière correcte, en accord avec ce que Dieu attend de nous. Dès l'enfance, nous pouvons avoir cette même perte de perspective. Quand nous étudions à l'école quelque chose, l'utilisation des contrôles et des notes pour ces contrôles, donc un 18 sur 20 ou un 5 sur 20, n'est pas originellement prévu pour être un but à atteindre. Ces notes sont un substitut qui indique, encore une fois, avec plus ou moins de précision, notre niveau de maîtrise de la discipline. Mais quand la note devient plus importante que l'apprentissage en lui-même, cela peut tenter l'élève à vouloir prendre des raccourcis pour l'obtenir, tels que tricher ou se concentrer uniquement sur les éléments nécessaires pour obtenir cette note-là. Et si la note passe avant la maîtrise de la matière, il est probable que l'élève ne repartira plus ou moins satisfait de ses résultats, selon la note, mais ne se rendra pas compte de la valeur de ce qu'il a appris jusqu'au jour où ses connaissances soient utilisées de manière pratique. Si l'élève a triché pour obtenir la note, la seule récompense restera la note, mais ce sera une note qui ne lui indique pas son niveau et ne pourra que le conduire vers plus de difficultés par la suite. D'une certaine manière, la réputation d'une personne a la même fonction qu'une note de contrôle, si ce n'est qu'elle est encore moins précise, beaucoup plus subjective et donc d'autant plus dangereuse à mettre au premier plan. Si on utilise Jésus comme exemple, le moins que l'on puisse dire, c'est que sa réputation était assez volatile. Adulé par la foule un jour, il est hué et crucifié quelques jours plus tard. Sans parler du fait qu'il n'avait pas la même réputation auprès de tout le monde. Prophète et enseignant pour certains, agitateur et provocateur pour d'autres. Et pour finir, si la réputation peut généralement donner une idée du bon comportement adopté, elle peut également induire en erreur quand la culture de l'époque a dérivé des objectifs que Dieu attend de nous. Dans ce cas-là, il est nécessaire de se démarquer, de ne pas avoir peur d'engendrer une mauvaise réputation, simplement parce que nous voulons suivre la volonté de Dieu, pour que la reconnaissance des hommes, plutôt que la reconnaissance des hommes. Jésus, dû à sa compassion, avait développé une réputation en tant qu'ami des pécheurs et des collecteurs d'impôts, à une époque où la culture demandait aux juifs pieux de se garder séparés de toute autre chose ou personne impure. Il n'avait pas peur de choquer et d'enfreindre les normes sociales qui allaient à l'encontre de la volonté de son Père. Ainsi, son obéissance à Dieu, sa compassion et sa résolution de faire le bien autour de lui étaient prioritaires et voire même indépendantes du développement de sa réputation aux yeux des hommes. Cela ne veut pas dire qu'il était indifférent à la manière dont son entourage ou même le reste du peuple le voyait. On voit ça quand il demande à ses disciples ce qu'ils avaient entendu à son sujet. Certains disent que tu es Élie, d'autres que tu es d'autres prophètes revenus. Mais cela veut dire qu'il ne pouvait laisser ses choix et ses actions influencer par la vision du peuple. Si un professeur décide tout à coup que 2 plus 2 font 5, alors le choix de l'élève, qui connaît la vraie réponse bien sûr, devient de déterminer s'il est plus important de continuer à appliquer les règles de mathématiques ou de choisir juste la bonne note, même si la réponse est fausse. En d'autres termes, c'est notre réputation aux yeux de Dieu qui doit passer avant tout. Le deuxième thème, bien sûr, dans ce texte, c'est la générosité. Donc, dans ce texte, Jésus ne parle pas simplement de bon comportement de manière générale. Il parle particulièrement de nos bonnes œuvres matérielles, de l'aumône et de notre participation à aider à ceux qui sont dans le besoin. Et pour lui, il est évident que c'est une chose qui est attendue de nous en tant qu'enfants de Dieu. Tout comme notre Père Céleste est plein de compassion, il veut nous donner ce même cœur plein de compassion. Aime ton prochain comme toi-même, au chapitre 22, est mentionné comme la contrepartie d'aimer Dieu de tout notre cœur. Et dès maintenant, il est temps de se poser la question, sommes-nous aujourd'hui remplis de ce cœur généreux? Je veux dire de manière pratique. Ce n'est pas le sujet central du texte d'aujourd'hui, c'est seulement la condition initiale sans laquelle le texte ne peut même pas s'appliquer à nos vies. En effet, comment juger de la motivation de nos bonnes œuvres si nous n'en faisons pas en premier lieu? Et pourtant, je me demande si ce n'est pas parfois un échappatoire que nous pouvons être tentés de prendre. Nous pouvons être tentés de ne rien donner, de ne rien entreprendre pour les pauvres et les personnes dans le besoin qui nous entourent, parce que justement, nous n'en avons pas la motivation. Si c'est le cas pour nous, ben, félicitations, vous avez évité le piège de l'hypocrisie. Et à la place, nous sommes tombés dans celui de l'égoïsme et du manque d'amour. Sans parler du fait que l'appel de Jésus dans ce texte, que Jésus fait dans ce texte continue de s'appliquer à nous même dans ce cas. Pourquoi vivons-nous? Qu'est-ce qui nous motive quand nous vivons jour après jour? Alors bien sûr, il y a des nuances et parfois aussi des excuses. On ne peut pas répondre à toute la misère du monde. Mais si une bonne action peut sembler comme une goutte d'eau dans l'océan, cette action peut faire toute la différence pour la personne qui en bénéficie. D'autre part, la société dans laquelle on vit semble avoir mis des barrières entre les individus. Plus on est nombreux et plus il est difficile de voir notre prochain comme un être à part entière. Et bien sûr, il y a aussi le fait que l'on se repose de plus en plus sur l'État-providence. Au temps de Jésus, il n'y avait bien entendu pas de sécu, pas de chômage ou d'organisme officiel qui prenait soin des dépourvus. C'était ainsi les familles et aux individus autour de volontairement soutenir ceux qui ne pouvaient pas prendre soin d'eux-mêmes. Sinon, ils étaient foutus. C'est certainement pourquoi l'aumône était une pratique fortement approuvée par la culture de l'époque. Mais malgré tout, je ne peux que constater que moi aussi j'ai besoin de demander à Dieu d'ouvrir mes yeux et certainement encore plus d'ouvrir mon cœur, peut-être mon porte-monnaie aussi, et probablement par-dessus tout mon temps à des personnes que je croise peut-être tous les jours mais que je ne vois pas. Il est possible de soutenir une organisation qui va faire un travail de manière plus qualifiée, mais dans ce cas, il ne serait certainement pas un surplus de juste chercher à s'informer plus, de soutenir aussi dans la prière, que ce soit quelque chose de véritablement personnel plutôt qu'une barrière entre nous et notre prochain. Une fois que l'on a décidé de donner, on en vient finalement au cœur du texte et également au cœur du problème. Comment donner? Comment se donner? Jésus demande d'agir en secret, de ne pas le faire pour attirer l'admiration des autres, mais pour obéir à Dieu. Alors, aujourd'hui, le YouTuber avec le plus d'abonnés au monde s'appelle MrBeast, avec plus de 130 millions d'abonnés. Ça fait deux fois la population de la France, enfin presque. Et une des choses qui l'a rendu populaire, ce sont ces vidéos dans lesquelles il donnait une somme d'argent faramineuse, donc 10 000 dollars ou 20 000 dollars, ou une voiture ou une maison à des personnes aléatoires dans la rue ou dans un café ou dans un restaurant. Alors je ne connais pas le cœur de ce jeune homme, mais sa situation nous montre qu'aujourd'hui encore, on peut gagner un gain important de popularité en démontrant des actions de générosité. Que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. C'est assez extrême comme image pour démontrer le secret et que l'on doit avoir dans nos actions. Et pourtant, c'est une image qu'il utilise en contraste avec l'attitude des religieux de l'époque qu'il qualifie à maintes reprises d'hypocrite. Cela me fait penser à certains films et séries que j'ai regardés, dans lesquels un riche corrompu faisait un don à un organisme caritatif dans le but de faire oublier un scandale embarrassant. Parfois, la transaction est plus directe et ça devient carrément un pot de vin pour acheter le silence de telle ou telle organisation, mais d'autres fois, c'est juste une action de publicité pour améliorer son image publique. Et dans les deux cas, La motivation principale, ce n'est pas d'aider, mais de bénéficier de l'effet d'une telle action. C'est pourquoi Jésus parle de secret, de rester anonyme. Tout en restant anonyme, ou en tout cas rester discret dans nos œuvres pour Dieu, montre que la motivation principale de l'action de cette entreprise est bien l'amour. Certes, il y a aussi du plaisir que l'on reçoit quand une personne est impactée de manière positive par nos actions, mais si nos actions sont motivées par ce qu'on va retirer de l'expérience, ces actions vont rapidement devenir conditionnelles. Notre exemple, encore une fois, c'est Jésus. Quand Jésus guérit les 10 lépreux et qu'un seul revient vers lui, il ne décide pas d'annuler la guérison des 9 autres. Il est bon d'enseigner la reconnaissance aux enfants. Mais c'est principalement, et ça on ne le sait pas forcément, mais c'est principalement pour leur propre bien, plutôt que pour le bien de ceux qui vont leur offrir un cadeau ou un service. C'est un encouragement pour ceux qui les entourent, certes, mais c'est surtout un meilleur développement pour l'enfant de grandir et d'approcher la vie avec une attitude de reconnaissance, plutôt qu'une attitude où tout est dû et où tout est pris pour acquis. Dieu, et c'est certainement joyeux d'entendre nos louanges et de voir nos cœurs reconnaissants, mais je pense que c'est aussi principalement dû au fait qu'il nous a créés avec un cœur qui est fait pour une attitude de louange. Une des choses que les études de psychologie ont découvert, et ce n'est pas les seules choses, mais c'est qu'il y a au moins 2 choses qui contribuent à notre bien-être. La première, c'est que le plus on est centré sur nous-mêmes, et le moins on est heureux, en fait. Et la deuxième, c'est que l'importance d'une attitude de l'importance d'une attitude de reconnaissance. Ce n'est donc pas si surprenant que dans une société où nous avons plus de biens matériels que jamais, mais étant plus insatisfaits que jamais auparavant, nous avons le plus de dépression et de suicides qu'aucun siècle auparavant. Donc si Dieu désire notre reconnaissance, ce n'est pas à notre détriment, mais c'est en fait pour notre bien. Alors pour en revenir au service de ce que l'on doit toujours faire ça en secret, pour en revenir au service, est-ce qu'on doit toujours le faire en secret? Pas forcément, ça dépend bien entendu de la situation, mais ça dépend surtout de notre motivation. Le but, c'est que l'acte de bienveillance ne devienne pas une transaction déguisée en bonne action. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas compter sur nos frères et sœurs en Christ pour nous aider dans nos œuvres, ou pour prier, ou pour même juste pour les encourager. Tout dépend de ce qui est au cœur de notre conduite, de nos choix et de notre motivation. Si j'aide un voisin et que j'en parle à mon groupe de maison, est-ce que je le partage pour qu'il puisse prier pour la situation, ou être encouragé de ce que Dieu fait? Ou est-ce pour que je me sente mieux et que j'épate la galerie? Je peux vous avouer qu'une fois de plus, quoi que je fasse d'ailleurs, pas seulement pour des bonnes actions, mais quoi que je fasse, que je partage, que j'aide, que je fasse une prédication, mon orgueil ne rôde jamais très loin, désirant recevoir la validation du regard des autres. Et c'est pourquoi je prie constamment, « Seigneur, s'il te plaît, prends la gloire qui te revient. » C'est-à-dire la gloire pour toute chose bonne dans ma vie. Pour conclure, alors c'est une fois de plus le challenge que Dieu nous présente aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous motive? De le servir ou de prendre soin de nous-mêmes? Est-ce le regard des autres ou est-ce notre désir de l'aimer et de le servir de tout notre cœur? Est-ce que je suis prêt à le laisser m'ouvrir les yeux et m'ouvrir mon cœur pour que je voie l'opportunité d'aider autour de moi et pour que mon cœur soit orienté dans la bonne direction, pour que je puisse le servir dans la bonne attitude? C'est des questions que j'ai besoin de me poser et j'espère que je ne suis pas le seul. Enfin, sauf si vous avez déjà... tout dans la bonne direction. Mais ouais, que nous puissions vraiment avoir un cœur prêt à le servir. Et je vais encore une fois prier. Seigneur, ouais, tu vois mon cœur tellement prompt à reposer les yeux sur moi-même ou me concentrer sur le regard des autres. Qu'est-ce que les gens vont penser? Que ce soit dans les bons moments ou dans les mauvais moments. Seigneur, aide-moi à vivre réellement pour toi. Que tous les choix que je fais et tous les choix que nous puissions faire soient faits pour ta gloire. Et que quand nous avons des bonnes choses et des opportunités d'aider et des possibilités de servir, que nous puissions vraiment rediriger la gloire vers toi. Parce que toutes ces choses, c'est toi qui nous les offres, c'est toi qui nous les donnes. Et ouais, c'est vraiment quelque chose que je te demande pour ma vie et puis pour toutes les personnes qui se sentent concernées. Seigneur, prends toute la gloire et utilise-nous comme tes instruments et que nous puissions simplement partager dans ta gloire. Amen.